Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce premier week-end du mois de septembre, eh bien, nous allons mettre en avant des jeunes qui osent, des jeunes qui entreprennent et des jeunes qui réussissent. Nous réécouterons notamment Guillaume Rosier, c'est lui qui, pendant la pandémie, a créé Covid Tracker et Vite Ma Dose. Et puis également Olivier Lombard, qui développe actuellement Opium. C'est la première berline française 100% hydrogène. Ils étaient tous les deux les invités d'Edwige Chevrillon à la il y a quelques jours. Autre exemple de cette jeunesse entreprenante et entrepreneuse, et bien avec nous en plateau Anna Ketsia Pletzel, lauréate 2020 du concours Créatrice d'Avenir avec sa société Ma Petite Maison Verte qui conçoit des logements à base de carton recyclé. Et puis à ses côtés, Andrea Montero, porte-parole du réseau Initiative Île-de-France, pour nous parler de ce programme d'accompagnement Créatrice d'Avenir et de son édition 2021 qui débute en ce moment. Enfin, nous parlerons également de Temo, cet ingénieux petit moteur électro-portatif très utile pour les plaisanciers, pour les manœuvres ou pour les courts trajets. Évidemment, Temo est une invention française. On va tout d'abord revenir sur l'excellent bilan des levées de fonds au premier semestre 2021 et ce malgré la pandémie. Précisément, 5,14 milliards d'euros ont été levés par la French Tech. En 6 mois, c'est déjà plus que sur l'ensemble de l'année 2020 et même plus qu'en 2019, véritablement la dernière année de référence. Et globalement, eh bien, la tendance est très bonne en Europe et en plus, cela crée de l'emploi. On écoute l'analyse de Franck Sebag, associé chez EY. Il était cette semaine l'invité de Good Morning Business.
Au 30 juin, la French Tech a levé un peu plus de 5 milliards. Comme vous l'indiquez, c'est plus que 2020, mais aussi plus que 2019 sur 12 mois. Donc on pourrait dire faire rattrapage, mais finalement, c'est un vrai record. On n'a jamais vu ça, un semestre qui est au plus haut, et qui est au plus haut en France, mais qui est aussi au plus haut en Europe, et qui est au plus haut au niveau mondial. Donc on a cette dynamique qui est importante et qui se traduit aussi en France.
Alors il y a cette dynamique parce qu'il y a toutes ces ruptures technologiques. On a évidemment beaucoup parlé des biotech avec les vaccins. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est... toutes les technologies des fintech qui se sont énormément développées, toutes ces néo-banques, ces institutions financières, les services internet aussi. C'est ça les principaux secteurs de la French Tech aujourd'hui ?
Ouais, vous les avez résumés. En fait, on a parlé du monde d'après, en fait, vous savez, on est tout le débat par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est que la période de la pandémie a accéléré en fait la digitalisation, a accéléré aussi tout ce qui est autour de la santé. Donc les secteurs que nous indiquons sont des secteurs qui sont plébiscités aussi par les consommateurs et par les entreprises. Aujourd'hui, voilà, des Doctolib, quoi, les leaders de la French Tech, du Ledger qui fait de la cryptocurrency ou des néobanques, aujourd'hui sont massivement utilisés. Donc il y a ce phénomène qui est très important.
Ce qui est intéressant aussi avec la French Tech, et c'est pour ça je pense que les gens y sont aussi sensibles, c'est que c'est aussi créateur d'emplois. 163 000 emplois directs et indirects dans la French Tech pour le premier semestre 2021. C'est pas seulement deux ou trois personnes qui se réunissent dans un garage et qui font une start-up, c'est des désormais pourvoyeur d'emploi.
Ça crée de l'emploi. Les startups que l'on voit fleurir, bon nombre ont largement dépassé les 250 personnes. Donc ça crée de l'emploi et ça crée beaucoup d'emplois en France. Donc c'est un élément vraiment accélérateur.
Et seul bémol de ce premier semestre 2021, l'Allemagne qui nous est repassée un peu devant dans ce classement des levées de fonds. Et dans l'Europe au sens large, eh bien le Royaume-Uni reste à la première place. À présent, deux témoignages enthousiasmants, ceux de Guillaume Rosier et d'Olivier Lombard, deux jeunes entrepreneurs français qui ont émergé en 2021. Ils étaient la semaine dernière à la tribune de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, aux côtés d'Edwige Chevrillon. Il y avait aussi sur ce même plateau, entre autres, Stanislas Niox-Château, le fondateur de Doctolib. Edwige les a notamment interrogé sur leur parcours et sur les clés du succès. On commence par Guillaume Rosier, c'est lui qui a créé Covid Tracker ou encore Vite Ma Dose, ces outils informatiques qui, vous le savez, se sont avérés quasiment d'utilité publique ces derniers mois. On écoute donc Guillaume Rosier.
Lorsqu'on a lancé Covid Tracker, lorsqu'on a lancé Vite Ma Dose, on n'a jamais eu comme objectif de créer des plateformes qui seraient les plus populaires pour suivre l'épidémie ou pour trouver un rendez-vous de vaccination. Ça s'est fait vraiment progressivement, c'est presque un hasard, presque un peu de la chance. On a développé ces plateformes progressivement, itérativement, jour après jour, semaine après semaine, et on n'a pu que constater ce que c'était devenu une fois que ça l'était devenu. Et donc ça, je pense que c'est un point qui est très intéressant. J'ai eu l'occasion d'étudier, par exemple, aux États-Unis. Je me suis rendu compte que dans ce pays, certaines personnes, certains citoyens, certains étudiants se mettaient pas les plafonds de verre qu'on peut se mettre en France. Et donc ça peut permettre de dynamiser la création et l'innovation. Un deuxième point, je pense que tous les outils qu'on a développés, Covid Tracker, Vitmados, tous les autres, ont pu l'être grâce à l'intelligence collective. Tous ces outils, des dizaines de contributeurs ont participé à la création de ces outils. En quelques jours, on a pu développer ces outils qui ont été visionnés par des dizaines de millions de Français. Et donc ça, c'est grâce à Internet, c'est grâce à ce qu'on appelle l'open source, la collaboration et l'open data. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. On gagnerait à le développer en France. Je pense que ça pourrait dynamiser la création, l'innovation, l'envie d'innover. Et puis finalement, je pense qu'on gagnerait à nouer des liens plus forts entre le public et le privé, puisque le privé parfois a besoin du public, mais le public a aussi besoin du privé. En l'occurrence, on n'aurait jamais pu développer les outils qu'on a développés sans open data, on vient d'en parler. Ça n'aurait jamais pu exister. Et donc, on a fait des outils qui servent aux citoyens, qui sont complémentaires des services publics, mais on l'a fait d'une manière privée, d'une manière citoyenne. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement important. On pourrait développer une certaine synergie entre le public et le privé. Donc, c'est pour ça que je milite pour un État plateforme qui donne les moyens aux citoyens, aux privés, aux entreprises, qui leur donne des données, qui leur donne des outils, qui leur donne des moyens pour réaliser des biens, des services qui vont compléter les biens et les services publics développés par l'État.
Et on rappelle que ce jeune homme, Guillaume Rosier, n'a que 25 ans et qu'il a en plus été élevé, c'était au mois de mai dernier, au grade de chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Autre invité de la plénière de la REF, c'est Olivier Lombard. Il est à peine plus âgé, 30 ans. Il porte, on vous en parle souvent sur BFM Business, ce très ambitieux projet Opium. Ce sera à l'horizon 2025, la première berline française roulant à l'hydrogène. Ses ambitions, donc je le disais, sont très grandes. Certains parlent même d'un futur Tesla européen. Alors au micro d'Edwige Chevrillon, Olivier Lombard, qui a été en plus, il y a quelques années, le plus jeune vainqueur des 24 heures du Mans, est lui aussi revenu sur les clés du succès de l'entrepreneuriat, notamment le rapport au risque. On l'écoute.
Pour devenir un Tesla européen, que vous faut-il ?
Il y a deux points, je pense qu'on peut améliorer, c'est vraiment ce rapport au risque.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, le rapport au risque, finalement ?
Quand je dis rapport au risque, c'est-à-dire que finalement, voilà, un entrepreneur peut venir avec un projet, présenter un projet, et il y a forcément des projets qui, on va avoir par exemple un côté plus ou moins industriel, ou vont comporter plus ou moins de risques, ou vont être plus ou moins innovants, mais qui vont comporter une certaine dose de risque. Et parfois, je pense qu'il y a une certaine réticence à aller vers ces projets qui pourtant sont à très fort potentiel, mais parce qu'il y a cette gestion du risque. Par exemple, on voit aux États-Unis. Ce rapport au risque, il est beaucoup amoindri. Ils y vont, ça marche pas, mais en tout cas, ils font le pas d'essayer d'y aller. Et si ça marche, tant mieux. Ouais. Et il y a juste un deuxième point, je rejoins ce que disait Stanislas, c'est par rapport à l'éducation. Nous, par exemple, on a une vraie volonté par rapport à la filière hydrogène d'être un vecteur d'accélération, parce qu'il va y avoir énormément de création d'emplois. Il va y avoir un vrai besoin finalement d'avoir des compétences, d'avoir des gens qui savent gérer de l'hydrogène. Et je pense qu'effectivement, ça commence dès l'école, dès les lycées, dès les universités, de pouvoir vraiment former les gens.
Ouais. Vous avez déjà une idée du prix ?
Oui, le prix de départ sera 120 000 euros. Et vous pouvez d'ailleurs la précommander, j'espère que vous l'avez
fait. Oui, j'ai demandé à mon boss s'il veut bien m'avancer ça. Oui, peut-être pas forcément.
Je ne suis pas tout à fait certain que la demande aboutira. Enfin, on verra bien dans les prochaines semaines. Dans cette deuxième partie de l'émission, eh bien, on va beaucoup parler d'économie verte et de recyclage. Premier exemple, Furniture for Good, une toute jeune start-up parisienne qui propose aux entreprises et aux collectivités du mobilier éco-responsable, notamment des tables et des chaises, produites à partir de déchets du quotidien. Thibaut Jean-Baptiste, l'un des cofondateurs de l'entreprise, va nous expliquer le process de création de ce mobilier. C'est 100% fait en France. Il nous rappelle tout d'abord le contexte législatif qui a évolué et qui est très favorable à sa jeune société. On écoute.
Il y a une loi qui est sortie l'année dernière, la loi anti-gaspillage, la loi AGEC, qui oblige les collectivités locales à acheter au moins 20% de produits recyclés. Donc c'est vrai que pour nous, on évangélise, mais assez facilement, on montre que c'est possible de faire de l'écolo, du français et du fonctionnel. La grande majorité des usines de production sont aujourd'hui en Chine, en Turquie, en Ukraine, et que je pense justement, pour revenir sur la crise du Covid, il y a un réel besoin aujourd'hui de réindustrialiser en France.
Alors expliquez-nous justement le parcours du meuble chez Furniture for Good.
Alors C'est très simple. Hein. Aujourd'hui, nous, on récupère les déchets via des grandes sociétés comme Paprec et d'autres en Île-de-France, donc qui récupèrent, qui collectent et qui trient les déchets.
Donc le papier, le plastique.
Exactement, tout type de déchets. Nous, on spécialise aujourd'hui sur notre première collection sur le plastique PEHD. D'accord. Donc c'est les bouteilles cosmétiques, les bouchons de bouteilles, tous ces plastiques un peu plus durs. Ensuite, notre prestataire, c'est une petite société qui s'appelle Le Pavé, récupère ces copeaux de plastique et les forme en plaques, comme des plaques de bois. Notre usineur les découpe et on est un fabricant dans le Loir-et-Cher de structures en métal. Et ensuite, tout est assemblé en Île-de-France. Donc, il y a très peu d'acteurs au final dans cette chaîne.
Donc, quand on vous écoute, en fait, vous êtes un agrégateur en fait, de compétences dans le domaine de la construction responsable. Et vous, en fait, vous designez et ensuite, vous avez trouvé tous les partenaires qu'il vous fallait.
On est simplement une maison d'édition de mobilier. Ouais, sauf voilà, on a pris des valeurs un peu différentes des autres. Ouais. Voilà, on a trois piliers. C'est le local, les déchets comme matière première et l'industrialisation, est-ce qu'on voulait apporter quand même du mobilier en série.
Et j'ajoute que Furniture for Good a remporté il y a quelques jours un appel d'offres pour l'aménagement du siège des Jeux Olympiques 2024. Le siège sera placé à Saint-Denis, près de Paris. Voilà donc une entreprise qui peut-être aurait pu intéresser le réseau Initiative. Bonjour Andréa Montero.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes porte-parole du réseau Initiative Île-de-France, dont on va parler dans un instant, mais vous allez notamment et surtout nous parler d'un programme qui existe depuis 10 ans et qui a été créé par le réseau Île-de-France. Ce programme, c'est Créatrice d'Avenir, et à vos côtés Anna Ketia Plaisel, qui est précisément une des lauréates de l'édition 2020 de Créatrice d'Avenir via votre entreprise Ma Petite Maison Verte. Alors, mais tout d'abord, donc, avec vous, Andréa, un rappel de ce qu'est le réseau Initiative qui accompagne les créateurs et les créatrices d'entreprises. Réseau, je crois, né dans les années 80 et qui a tissé au fil des années un maillage par région et par département. Et c'est ainsi qu'est née Île-de-France, donc en 1996.
Tout à fait. Alors, le réseau Initiative France, globalement, c'est 220 plateformes en France et en Outre-mer. Et pour ce qui est du réseau Initiative Île-de-France, ça concerne 11 plateformes qui, du coup, portent le concours Créatrice d'Avenir. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau Initiative Île-de-France, c'est le premier réseau associatif d'accompagnement, de financement et d'hébergement pour les entrepreneurs franciliens.
Et quelques chiffres clés, voilà, sur le nombre d'entreprises que vous accompagnez.
Bien sûr. Alors, en 2020, on a pu accompagner, en tout cas créer ou maintenir plus de 3700 emplois, et ce qui a représenté quasiment 1500 entreprises créées ou reprises, parce que justement quand on parle du maintien de l'emploi, c'est aussi de la reprise d'entreprise qu'on peut accompagner.
Et avec cet important un taux de pérennité à 3 ans qui est très élevé, au niveau national je crois que c'est 66%, vous
Exactement.
C'est largement au-dessus.
Exactement, on est fiers de prôner 94% de taux de pérennité à 3 ans.
Ce qui est énorme. Alors on va parler donc de ce fameux concours qui est aussi un concours et un programme d'accompagnement Créatrice d'Avenir, c'est la 11e édition. Combien de candidatures vous avez reçues en sachant qu'elles sont closes à la fin du mois de septembre?
Alors, on a eu un record l'année dernière de plus de 450 candidatures. On est sur une moyenne annuelle de 300 candidatures, tout département confondu. Et donc, on est assez fiers de pouvoir prôner ça.
Alors, c'est quoi le concept? C'est exclusivement des entrepreneurs ou entrepreneuses, voilà. Et quels sont les critères d'éligibilité?
Alors, les critères d'éligibilité sont divers et variés. Alors, il faut déjà, pour pouvoir concourir, avoir plus de 50% des parts de la société, détenues par une ou plusieurs femmes, que la dirigeante soit une femme. Ensuite, il faut avoir immatriculé sa société avant le 30 septembre 2021, donc c'est la date de clôture des inscriptions au concours. Et voilà.
Et ensuite, donc, une fois le 30 septembre passé, c'est quoi les prochaines étapes jusqu'à la grande finale qui aura lieu au mois de décembre?
Alors, entre octobre et novembre, il y a la sélection départementale des candidatures. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 5 catégories, donc 5 fois plus de chances pour les candidates de pouvoir gagner un prix. On a la catégorie audace, on a la catégorie entreprise innovante, on a la catégorie entreprise responsable.
Vous leur apportez donc, en plus, il y a une dotation financière, mais aussi tout un accompagnement.
Hein, tout à fait. Donc, l'idée aussi de prôner ce concours, c'est pour pouvoir sensibiliser et valoriser l'entrepreneuriat au moyen notamment des outils qu'on peut proposer d'accompagnement. Et donc, la dotation globale, elle est de 60 000 euros pour le concours, dont 30 000 euros en numéraire et 30 000 euros en accompagnement qui peut être en nature, qui peut être via une société de communication avec qui nous sommes partenaires. Voilà.
Et j'imagine que ça compte beaucoup. Donc, quand on est jeune créatrice d'entreprise, vous avez été donc avec la société Ma Petite Maison Verte lauréate créatrice d'avenir en 2020. Ça compte cet apport financier, ce soutien, cet accompagnement. On va parler de votre concept dans un petit instant, mais ça compte quand on se lance.
Totalement. Savoir qu'on est accompagné par un réseau qui est aussi grand que Créatrice d'avenir, c'est vraiment valorisant. C'est vraiment quand on est jeune créateur d'entreprise, jeune entrepreneur, on a besoin de ce soutien, tant au niveau financier qu'accompagnement, de coaching, etc.
Alors, Ma Petite Maison Verte, c'est quoi? Quel est votre concept?
Donc, notre but est de réduire l'impact environnemental des logements. Pour ce faire, nous construisons des petits habitats écologiques avec des matériaux recyclés et recyclables. Notamment, nous construisons avec de l'IPAC, qui est du carton recyclé, avec couvert d'un film plastique qui s'appelle de l'Aquilux, qui lui aussi est recyclé et qui est 30% plus économe en énergie que le béton. Donc, nos maisons, elles sont solides. Le loup, il passera, il soufflera dessus, mais elle ne
s'écroulera. Oui, c'est comme la maison des trois petit cochon, c'est même si on souffle, elle sera là à la fin. Exactement. Et à la fin, je crois qu'il y a un programme qui est en cours de construction en région parisienne. C'est votre premier gros contrat. Expliquez-nous cela.
C'est cela. Nous avons un projet avec les mairies d'Évry-Courcouronne. Donc, c'est la construction de 14 logements pour 31 étudiants en situation de précarité. Donc, ce projet, il est prévu pour fin d'année, début d'année 2021.
Donc ça veut dire que là, vous êtes en cours de construction de ces 14 logements. Il y a d'autres contrats qui sont en cours ou qui vont venir ?
Qui vont venir, effectivement. Il y a des particuliers qui sont intéressés. Donc nous construisons avec la ville d'Évry, mais nous aurons aussi le produit aux particuliers.
Ça coûte combien une maison, Ma Petite Maison Verte ?
Donc, je vais prendre l'exemple du modèle témoin que l'on peut visiter à Épinay-sur-Orge. Donc c'est une petite tiny qui fait 17 mètres carrés, qui est environ 30 000 euros en fonction des options que l'on va ajouter.
Les options, ça peut être quoi ?
Ça peut être la phytoépuration, donc traitement des eaux usées par des systèmes de plantes, des panneaux photovoltaïques, des récupérateurs d'eau de pluie, pour le chauffage, on peut mettre soit électrique, soit des poêles à peler, donc il y a pas mal d'options qui peuvent être intégrées, et aussi les fondations qui peuvent
être une option, voilà.
C'est ça.
Votre parcours, il est très intéressant, donc Anna Katsia, vous étiez en métropole il n'y a pas si longtemps que ça, vous êtes originaire de la Martinique, et puis un jour, il y a un coup de fil, je crois que ce n'était pas si lointain que ça, en 2019, qui a changé votre vie. Expliquez-nous ce coup de fil d'un de vos amis qui s'appelle Benjamin.
C'est cela. Au-delà d'être un ami, c'est aussi mon associé dans l'entreprise, M. Bajal Benjamin. Donc, il a vu le produit IPAC il y a plus de 3 ans. Il a trouvé que ce produit était très intéressant, non seulement pour ses caractéristiques techniques, mais également parce qu'il était socialement responsable. Et il a eu l'idée de créer cette entreprise. Il m'a alors appelé depuis la Martinique. Enfin, il était en France et moi en Martinique. Il m'a appelé pour monter ce projet.
Et vous êtes venu directement, vous avez pris l'avion directement.
J'ai pris le temps de réflexion et finalement, je me suis dit, il faut y aller. Le projet, il est super intéressant et les valeurs étaient surtout... Elle me correspondait, donc je suis là.
Et le bilan de cette première année, vous avez créé votre boîte donc en novembre 2019, ça va faire 2 ans bientôt, il y a eu ce label, etc. C'est quoi le bilan? C'est aucun regret d'avoir pris l'avion à l'automne 2019?
Aucun regret, c'est une belle aventure, j'ai hâte de la voir évoluer encore, donc... pendant de nombreuses années.
Question pour toutes les deux, on parle beaucoup souvent de l'entrepreneuriat féminin. Quelques chiffres clés si vous les avez, Andrea ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a une particularité, des particularités à entreprendre au féminin? Moi, à titre perso, j'aime pas trop ce distinguo entre les deux types d'entrepreneuriat, de le genrer un peu, mais vous, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une façon d'entreprendre spécifique aux femmes?
Je pense effectivement qu'il y a une façon, enfin, une distinction peut-être au niveau de la gestion. Les femmes et les hommes ne sont pas constitués de la même façon, donc ce sera peut-être différent une entreprise qui est créée par une femme. Je pense aussi que les femmes ont... Je ne suis pas féministe, mais les femmes aussi ont cette capacité de résilience et à toujours vouloir aller de l'avant.
Et les freins? Il y a des freins encore à entreprendre au féminin ou c'est en train de se lever, Andrea?
Oui, bien sûr, il y a les gros freins de stigmatisation des femmes. Il y a aussi la condition familiale qui peut être un frein. Durant la crise sanitaire, les femmes entrepreneurs ont été très touchées, plus que les entreprises détenues par des hommes, du fait justement de la fermeture des écoles, du confinement. Et c'est quelque chose qu'on a pu apprécier.
Un mot encore sur le concours. Donc, on a dit que toutes les inscriptions jusqu'au 30 septembre. Sur quel site on peut s'inscrire si on est éligible et si on est intéressé?
Tout à fait. Alors, ce sera sur créatricedavenir.com. Et voilà, il y a 5 catégories pour lesquelles concourir. Donc, d'autant plus de chances de pouvoir remporter un prix. Et surtout, on aurait tendance à dire, par exemple, pour les prix comme celui de l'innovation, que ce sera réservé à des entreprises de la tech. Il faut aussi détromper. C'est souvent des.
C'est très variable. Moi, j'ai les lauréates de 2020. On était dans l'agriculture, dans la déco, oui, dans l'aérien. Vraiment, tous les profils, exactement, tous les secteurs vous intéressent, hein, vraiment.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de valoriser l'entrepreneuriat féminin sous toutes ses formes.
Un mot pour finir, voilà, de cette labellisation. Ça vous a vraiment été utile. Vous avez senti l'apport du réseau, peut-être aussi une visibilité média plus importante. C'est encore une fois important quand on lance son entreprise.
Totalement. C'est très important d'avoir ce soutien, comme je disais tout début, au niveau médiatique aussi. Donc, ça permet de faire connaître le projet et d'avancer beaucoup plus vite que si on était un peu dans l'ombre, qu'on avançait seul.
En 30 secondes, c'est ce qu'il nous reste, que vous inspirent les témoignages que l'on vient d'entendre, celui de Guillaume Rosier, celui d'Olivier Lombard. Ils ont votre âge, grosso modo. Je ne me permettrai pas de vous demander votre âge, mais je le connais. Vous êtes dans la même tranche d'âge. Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est encourageant, en tant qu'entrepreneur, de voir qu'il y a pas mal de personnes du même âge que nous qui entreprennent également. Et puis, surtout, ce côté écologique également qu'ils mettent en avant, notamment avec le mobilier. Et je pense que je prendrai contact prochainement.
Mais avec plaisir. Je fais la mise en relation. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir. Donc, on rappelle créatricedavenir.com si on veut candidater pour l'édition 2021 et longue vie à ma petite maison verte.
Merci beaucoup.
Un sujet d'ailleurs, Anna Cassia, qui peut vous intéresser. Est-ce que vous connaissez Carton Vert ?
Pas encore.
Eh bien, Carton Vert, c'est une start-up de la région de La Rochelle qui permet de réutiliser les cartons, c'est très important, en plein boom, en plein essor du e-commerce. En clair, l'entreprise collecte des cartons déjà utilisés, elle les trie, elle les revend à des sociétés qui en ont besoin. Et en plus, Carton Vert a recours à un ESAT, un établissement qui emploie des personnels en situation de handicap. On est là clairement dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Sur place en Charente-Maritime, le reportage de Rebecca Blanc-Lelouch.
Nous sommes ici à Périgny, à La Rochelle, avec Romain Dupuis. Vous êtes le directeur général de Carton Vert. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait pour créer une société de l'ESS ?
Alors, une société de l'ESS, c'est une SAS comme n'importe quelle SAS, sauf qu'on a un label spécial ESS. On a des comptables qui sont spécialisés dans l'ESS. On fait travailler des personnes en situation de handicap. On a une action environnementale parce que une tonne de carton réemployé contre une tonne de carton recyclé, c'est 300 kilos de CO2 économisés, c'est presque 900 litres d'eau, pas de produits chimiques et ainsi de suite.
C'est donc un tout nouveau concept que propose la start-up qui a déjà récupéré près de 30 000 cartons, parmi lesquels on peut retrouver ceux de chez Léa Nature. Nous sommes avec Emmanuel Julio, vous êtes en charge de la valorisation des déchets chez Léa Nature. Comment s'organise le relais avec Carton Vert ?
Sur les trois sites de Périgny, on a à peu près 467 tonnes par an de carton, donc on a une très grosse puissance de feu par rapport à la demande de Carton Vert. Tous nos cartons ne leur conviennent pas, donc on a vraiment sélectionné pour eux les cartons qu'ils pensent pouvoir valoriser très facilement. Recycler, c'est bien, mais c'est énergivore, il y a beaucoup d'eau, de solvants, alors que là, réutiliser quelque chose qui n'a servi qu'une fois prend tout son sens et tout le monde est satisfait. C'est gagnant-gagnant pour eux, pour nous qui avons un peu moins de coûts de destruction de carton du coup. Et eux, ils ont des clients qui sont satisfaits de payer à moindre coût leur carton.
Carton Vert s'impose donc comme la première société à faire du réemploi en France et entame dès cette rentrée un programme de levée de fonds.
Et la chronique Impact présentée en alternance par Rebecca Blanc-Lelouch et Cyrielle Ariel, vous la retrouvez tous les matins dans Good Morning Business à 7h40, à retrouver également sur la plateforme RMC BFM Play. Je reviens un instant à vous, Anna Ketsia. On a vu que dans ce sujet de Rebecca Blanc-Lelouch, c'était des travailleurs d'ESAT qui étaient employés. Vous-même, vous êtes basé dans un IME, un institut médico-éducatif. C'est un point très important de votre projet d'ailleurs.
C'est ça, totalement. Ce sont, même je dirais, les piliers de l'entreprise. Donc nous permettons à des personnes en situation de handicap d'être formées au métier de la charpente et de construire les maisons avec nous. Donc le matériau lui-même est réalisé par des personnes en situation de handicap en ESAT et ensuite la construction est réalisée aussi par ce type de profil.
C'est important, c'était important de le signaler. Merci beaucoup. Ça. On va terminer bien cette émission par un tout dernier goût de vacances avec Temo. Temo, une invention française très utile pour les plaisanciers, uniquement sur les petites embarcations. Très utile donc pour entrer ou pour sortir du port ou pour les courtes distances. Il s'agit en fait d'un petit moteur électroportatif, très simple d'emploi. C'est plus facile qu'à la rame, c'est plus écolo qu'avec un moteur thermique. Les explications d'Alexandre Seux, le fondateur de Temo, c'était sur le plateau de Tech & Co avec François Sorel.
c'est un moteur électroportatif qui a vocation à propulser toutes les petites embarcations légères, donc des petites annexes du 7 de mètre 50 pour rejoindre le bateau principal, à des petits kayaks ou à des petites barques de pêche, etc. Et la particularité de ce moteur, donc, c'est une grande forme tubulaire avec une hélice au bout, et ça permet de propulser n'importe quelle petite embarcation pendant une heure. Et donc c'est inspiré de la mobilité urbaine avec des batteries compactes au lithium, un moteur électrique optimisé, et c'est un moteur produit en France. Donc aujourd'hui, on vient avec le moteur, je dirais, le plus léger au monde, qui fait seulement 5 kg pour une autonomie d'une heure avec un moteur de 450 watts.
Voilà, donc on l'installe à l'arrière du bateau, on appuie sur un bouton et c'est parti.
On l'installe à l'arrière du bateau, donc soit on le tient à la main, soit on le met dans une dame de nage, une sorte d'interface avec le bateau. Ensuite, on appuie sur le bouton, c'est une gâchette comme pour une visseuse électrique très simple. Il y a une marche avant, une marche arrière, et puis on peut gérer la vitesse du bateau avec un accélérateur proportionnel qui va donc déployer une puissance comme on l'aura souhaité.
Et alors, ce produit est fabriqué en France ? Ça, c'est chouette.
Ouais, tout à fait. Bien. C'est quelque chose qu'on a voulu faire depuis le début. On a mis un point d'attention à fabriquer en France. Donc, c'est un produit qui est non seulement assemblé à Nantes, à Carquefou précisément, on a aussi fait un effort sur le sourcing, c'est-à-dire que 70% des composants du Témo viennent d'un rayon de 100 km de Nantes. Donc, on peut parler de la plasturgie, on peut parler de l'aluminium, on peut parler des pièces usinées, de l'électronique, etc. On a fait un effort énorme pour faire du sourcing local, malgré les coûts plus importants, mais on a une meilleure contrôle de la chaîne d'approvisionnement et puis on a aussi une qualité qui est un peu plus simple à gérer.
Alors, vous avez été retenu aussi par l'ADEME, hein, prestigieux évidemment label pour votre engagement favorable à l'environnement, dans le cadre de France Relance.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est bien. C'est aussi une
très bonne nouvelle.
Une belle récompense.
Une belle récompense. Donc, France Relance, hein, c'est le plan qui est arrivé après la crise qu'on a connue. Ils ont fait le choix d'accompagner donc Témo pour la création d'emplois, pour notre mouvement aussi en faveur de la décarbonation de la plaisance.
Voilà, donc ça s'appelle Témo, et si cela vous intéresse, ça coûte 1 450 €, et on le disait, ça a créé de l'emploi et de l'activité dans la région de Nantes et dans la région Pays de la Loire. On se retrouve le week-end prochain pour une toute nouvelle émission de La France a tout pour réussir, et on continuera donc en cette 6e saison à mettre à l'honneur tout ce qui fonctionne, tout ce qui a de l'ambition dans l'économie française. Très belle semaine, et à très vite sur BFM Business.
BFM Business, La France a tout pour réussir.